Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Coucou Pauline.
Coucou Lisa.
Ça va?
Bah oui, et toi?
Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus.
Ça fait quelques semaines là.
Bah ouais, quand même. J'ai l'impression que ça fait au moins 3 mois qu'on n'a pas enregistré de podcast. C'est faux.
Désolée les abonnés, mais c'est directement en lien avec l'épisode du jour qui est...
C'est un...
Tu vois, tambourin, le tambourin, là.
Le burn-out. Voilà.
2.0.
Exactement. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous le demander. On avait aussi envie d'en parler, mais je pense que pour l'instant, ça va être le premier épisode qu'on sort sur le burn-out. Et peut-être qu'on en sortira un autre, genre peut-être
dans 6 mois.
Dans 6 mois, ouais, si on est encore là. On est déjà sur une discussion dramatique de fin de vie. Non, mais ce sera intéressant parce que même aujourd'hui, on se rend compte que ça, notre état d'esprit, notre santé mentale, elle évolue en continu. Donc ça pourrait être intéressant, je pense, de faire peut-être 2 épisodes là-dessus avec un gros laps de temps.
Ouais, complètement. Mm. Surtout que en fait, nous, ça, notre burn-out, parce que ça a été à quelques semaines d'écart, c'était fin d'année, fin décembre, début janvier, et on arrive tout juste à poser des mots dessus et à prendre un certain recul. Donc je pense que oui, c'est tous les 6 mois, peut-être un petit bilan s'imposera. Et au bout d'un moment, ça sera partie de notre vie, ça sera exactement plus qu'un mauvais souvenir.
On vous a même pas demandé comment ça allait, je suis en train de m'en rendre compte.
D'habitude, comment vous allez, les abonnés?
Ouais.
Faut qu'on arrête de les appeler les abonnés, faudrait peut-être les appeler les auditeurs en fin de compte.
Trouver un petit nom sur tard l'époque, les abonnés là. Je sais pas
les épopiens.
On
va faire ça. Sur Instagram, on va faire des sondages, vous allez nous proposer des noms pour
des
la communauté.
Blazes, là. Ouais, de ouf.
Ça va être super.
Enfin bref, est-ce qu'on rentrerait pas dans le vif du sujet?
Let's go.
Et comme à chaque fois, ce qu'on aime bien faire, c'est donner des petites définitions, mais nos définitions personnelles. Donc bien sûr, ça ne nous touche que nous, chaque chose diffère selon les gens. Donc aujourd'hui, Pauline, je te pose la question.
Pose-la moi.
Peux-tu me donner ta définition du burn-out?
Le burn-out. Alors pour moi, donc, c'était un peu, avant que j'en sois victime, une maladie un peu qui voulait tout et rien dire, tu vois. C'était en mode, tu fais un burn-out, c'est quand tu pètes un plomb, tu changes de travail, tu fais un truc, non, c'est pas ça. Le burn-out, moi, personnellement, ce que j'ai vécu, c'est d'un coup tout va bien, enfin tout va bien non, parce que vous allez voir qu'il y a des signes précurseurs, mais tu fais ta vie et d'un coup, tu sais pas pourquoi, ton cerveau lâche. C'est un jour comme ça, ça prévient pas. Tu te poses et tu te dis mon cerveau n'a plus de capacité, mon cerveau est au ralenti, il est noyé. Moi c'est vraiment comme ça que je définissais mon état mental, c'était noyé, c'était je n'ai plus la capacité de réfléchir. Dès que je me mettais à penser à quelque chose, ça me demandait un effort. Il fallait que je parle sans réfléchir, sinon c'était trop. Donc les interactions sociales c'était fini pendant un certain moment parce que parler avec des gens, ça me fatiguait, j'étais pas capable. Rien que d'aller dans mon cerveau, je pouvais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un mur en béton qui m'empêchait d'y aller. Et je me suis dit, mais je vais jamais réussir à me reconcentrer sur quelque chose. Et au final, ça passe. Mais c'est vraiment cette sensation d'être du jour au lendemain coupé de toutes tes capacités intellectuelles et de réflexion. Et c'est super bizarre.
Ouais.
C'est super bizarre. Et toi?
Dans la même lignée que toi, mais avec un autre vocabulaire. Là où toi, tu t'es sentie noyée, moi, je me suis sentie grillée. Genre, vraiment, le cerveau a cessé de fonctionner. J'aime visualiser mon cerveau comme un immeuble, un bel immeuble. Et c'est comme s'il y avait une coupure de courant général. Et genre, vraiment impossible de discerner quelle pièce est laquelle. Je sais pas si c'est bien imagé, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Et là où ça rejoint vachement ce que tu dis, c'est pareil, l'incapacité de réfléchir, juste d'être consciente des choses. J'étais passée en mode pilote automatique, je faisais les choses d'une manière très machinale, mais ouais, c'est comme si, je sais pas, il y avait un espèce de vide constant, une espèce de barrière, de barre au crâne. Enfin, c'est assez compliqué de retranscrire comment tu te sens, Mais effectivement, juste, tu n'arrives plus à réfléchir de manière consciente.
Et puis, tu sais, t'as l'impression de faire... que ça va te demander un effort tellement incommensurable d'aller accéder à tes données intellectuelles.
Parce que je pense que t'as pas envie aussi. Il y a une part de toi, enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressenti pour nos deux burn-out. Il y a une partie de toi qui se protège aussi et qui dit, non, là, t'es pas tout de suite prête à faire face à comment tu te sens, à tes émotions. Donc, d'un côté, tu te protèges. Mais de l'autre, tu t'es en dissociation pendant toute cette période-là.
Ah, mais c'est clair, je sais que nous, le terme qu'on emploie tout le temps, c'est le mode avion. Genre, ouais. C'est vraiment ça. C'est...
Et pas t'as le mode lune. Minuscule aparté, j'ai découvert hier que Pauline, pour parler du mode ne pas déranger sur l'iPhone, elle l'appelle le mode lune, parce que c'est une petite lune. Je trouve ça adorable. Donc n'hésitez pas à employer le mode lune.
Le mode lune, voilà. C'est génial, ça sauve des vies. Surtout quand t'es en burn-out, ça t'évite d'avoir du contact. Mais du coup, ouais, le mode avion, c'est vraiment ce truc-là de... T'as toutes tes fonctionnalités, tu marches, tu parles, tu respires, tu manges, mais pas du tout de manière consciente.
Ouais.
T'es en dissociation, mais pas la dissociation comme quand t'es en crise d'angoisse, parce que pour avoir fait de l'anxiété des années, c'est pas cette même sensation d'être bloqué, c'est vraiment... Tu ne sais plus ce que tu fais. Tu parles, mais sans parler. Tu fais des choses,
c'est
mais...
C'est mécanique.
Ouais, c'est... Enfin bref, on va arrêter sur la définition ici, parce qu'on pourrait en parler des heures.
Ouais.
Mais c'est un peu... Si on peut résumer, c'est vraiment un gros choc d'un coup qui, comme tu l'as très bien illustré... Enfin dit, éteint la lumière à tous les étages de ton cerveau.
Ouais. Et pour toi, justement, quels ont été les signes un peu précurseurs de ton burn-out ? Quand est-ce que tu t'es dit « Oh là !»
Oula, comme dit Axel. Alors moi, ça a commencé, je pense, donc j'étais en alternance et j'ai commencé au fur et à mesure de ma prise de poste à me sentir de moins en moins confiante. J'ai perdu toute mon assurance, toute ma confiance en moi. Je doutais de mes compétences. J'ai commencé à rentrer chez moi le soir et à me dire, ok, comment tu peux faire mieux ? Comment il faut que tu sois mieux ? Il faut que tu sois physiquement mieux, psychologiquement mieux, créativement mieux. Il fallait que je sois la meilleure personne, comme si j'avais pas le droit à l'erreur. Et donc, je me suis mis une pression monumentale et j'ai commencé...
Pression qu'on t'a mise aussi.
Voilà, donc dans les deux cas. Et j'ai commencé, ouais, la perte de confiance en moi, c'est le truc qui m'a le plus choquée. J'avais des longs cheveux un peu blonds, j'ai tout coupé, j'ai fait noir presque carré, j'ai arrêté de me maquiller. J'étais en sweat tous les jours, alors que c'était un truc où je disais, ah non, moi, c'était pas dans mon style de base. J'ai voulu me cacher, m'enfermer, j'avais plus d'assurance quand je marchais, je me sentais vraiment jugée, pas à ma place. Si j'allais dans un endroit où il y avait des gens, je voulais me cacher. Enfin, cette grosse perte de confiance en moi. Et en fait, cette mentalité où quand j'allais au travail, je me disais, ok, comment il faut que je fasse bien les choses ? Toute ma vie était une to-do list, il fallait que tout soit fait. Et j'avais l'impression que j'allais jamais réussir à faire assez bien. Donc je me remettais une pression supplémentaire. Et en fait, la pression, plus le manque de confiance en moi, ont fait que j'ai tout a pété. Il n'y avait plus aucun pilier à l'intérieur de moi qui me maintenait en conscience et en vie presque. Et du coup, tout a lâché. Donc, la confiance en moi ne m'a pas aidée à me relever ou à me tenir. Et la pression, en plus, à côté, ça a fait que tout a lâché. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais donc dans cette alternance-là. Je l'ai arrêtée pour des raisons que je ne peux pas citer. Voilà. Et du coup...
Girl secret, can you keep it?
et du coup, je prenais un appartement. Donc, j'ai dû très vite trouver autre chose. Et je pense que sur le moment... Enfin, tu me diras, si toi, c'est pareil, tu fais... un espèce de déni sur l'instant T. Enfin, moi, je sais que c'est... Je me suis dit, j'ai pas le droit de lâcher. Je peux pas tomber. J'ai un master à valider. J'ai un appart à payer. Je vais trouver juste autre chose. Je vais faire comme si ça n'était pas arrivé. Je vais trouver autre chose.
Ouais.
Donc, j'ai fait une semaine dans une autre entreprise. Et là, bah, c'était catastrophique. Et à la fin, j'ai juste retrouvé ma safe place, Lisa. Et je lui ai dit, meuf, mon cerveau est vide. Je ne peux plus, j'arrête tout, école, tout, j'arrête tout. Je n'ai plus de capacité de réflexion, j'étais plus heureuse, plus rien. Et voilà.
Mais la grosse vive, parce que du coup, pour t'avoir vue pendant cette période-là, un peu dégringolé, c'est que je pense que tu as différents types de personnes qui sont sujets au burn-out, qui réagissent de différentes manières. Et toi, c'est vrai que ça a été très vite... non mais hop là, j'oublie, j'avance, je fais des trucs, justement pour essayer de noyer tes émotions. Enfin, j'imagine, après, je suis pas dans ta tête.
Ah si, c'est totalement
après,
ça.
Après, je te comprends en deux secondes.
Tu comprends vite fait.
Ouais.
Bah en fait, c'est totalement ça, c'est que ma santé mentale, alors que je prône l'écoute de soi, c'est pour ça que j'ai fait des grosses remises en question après, je prône écouter sa santé mentale, et je pense que, comme on le dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Mm-hmm. Super belle expression.
Mm-hmm.
Et en fait, moi, je me suis totalement laissée porter par tout ça. Je me suis dit, tu n'as pas le droit à l'erreur, mode survie activé, et avance. Enfin, tu vas faire quoi? Tu vas attendre? Tu peux pas attendre. Déjà, c'est pas dans mon tempérament, et c'était pas accessible, en fait. Dans ma tête, je me disais, je ne peux pas me confronter à ça. Ça va être de un trop violent, parce que c'est toute ma vie qui s'effondre d'un coup, toutes les angoisses qui arrivent en même temps. Et de l'autre, enfin, t'es en mode, tu veux pas accepter que t'as un problème.
Ouais.
Tu veux dire, non, c'est pas ça, c'est juste une petite épreuve, mais c'est pas aussi grave que ça, parce que bah, t'as pas envie de, je pense, toi, tu me diras si toi c'est pareil, mais t'as pas envie d'avoir le regard un peu compatissant des autres, t'as envie de t'enfermer dans une bulle, pas montrer que t'as mal, et bah, en plus, vu que souvent on se dit qu'on n'est pas forcément pris au sérieux dans ce genre de cas,
ouais,
bah, t'as pas envie de dire, bah, là je vais pas bien, quoi.
Mmh. Puis t'as toute une question d'ego, enfin, c'est une conversation qu'on a eue toutes les deux, puisque, bah, comme disait Pauline au début, entre le moment où moi j'ai commencé à vriller et celui où Pauline a commencé à vriller aussi, il y a eu un laps de temps de quelques jours, je pense, à peu près, et peut-être semaine, mais
bon, deux semaines, je
ouais,
pense,
à tout casser. Et on a eu cette discussion là toutes les deux où je disais, mais meuf, en vrai, c'est notre ego, c'est notre fierté qui parle, qui nous dit, mais non, t'es plus solide que ça, mais non, tu peux surmonter ce truc là en vrai, c'est rien. Et l'ego, c'est bien d'en avoir par moment, en vrai, c'est bien, mais dans le cas de figure d'un burn-out, l'ego, il doit vraiment se taire. Là, non, t'as eu tous les warnings qui se sont allumés, et au bout d'un moment, t'es obligé de te dire, non, mais c'est pas une question de je suis solide et tout machin, là, je suis en train de vivre un truc violent. Et je trouve que ça fait partie des choses qui sont très difficiles à accepter quand tu fais un burn-out.
Mais totalement, et je pense qu'on peut même le comparer à l'état d'esprit dans lequel t'es quand t'es en dépression. Parce que c'est exactement ça, c'est ce côté où tu veux faire des choses, ton corps te dit je ne peux pas.
Ouais.
Du coup, je pense que dans le burn-out, il y a quand même un syndrome dépressif. Après, je vais pas m'avancer sur des termes parce que je suis pas psychiatre ou psychologue, mais j'ai, pour avoir expérimenté les deux, il y a quand même ce même rapport de je veux être capable de faire quelque chose, je ne peux pas le faire parce que mon corps et mon cerveau ne suivent pas, et du coup, je m'en veux de pas être capable de faire mieux. Et en fait, cette haine qu'on crée envers nous-mêmes, elle accentue encore plus les traumatismes et les conséquences du burn-out. Mais à part ça, toi, petite Luciole,
comment... C'est un nouveau surnom,
oui.
Petite Luciole, c'était jamais arrivé.
Il faut bien qu'on apporte un peu de douceur et de légèreté dans ce sujet super catastrophique.
C'est vrai, ça va être dur de faire des blagues.
Comment toi, t'as vécu donc le moment où tout a pété, comme t'as dit, où t'as perdu l'électricité à tous les étages de ton immeuble?
J'aime vraiment bien cette illustration. Je pense que, contrairement à toi, j'ai pas vu trop le truc arriver. Mon entourage m'en faisait part de là c'est too much, t'as tout le temps la tête dans le travail, parce que du coup, comme pour Pauline, c'est arrivé au taf. Après, voilà, il y a plein de choses qui se sont mêlées à la charge de travail, hein, des choses plutôt sombres. Donc voilà, pareil, on peut pas tout vous raconter, malheureusement. On aimerait bien, mais on peut pas tout vous dire. Mais j'ai eu plusieurs, même l'entièreté de mes proches qui n'arrêtaient pas de me faire des réflexions de Lisa, ça se voit que ça va pas, ça se voit que t'as trop de taf, que bref, t'es en surmenage complet. Et j'ai un peu caché ça sous le tapis en me disant non, parce qu'en vrai, je kiffe ce que je fais, je kiffe avec qui je suis, etc. Donc pour moi, c'était pas... j'écoutais pas le discours des gens. Et j'ai une scène particulière dans ma tête où là, ça, c'est vraiment le truc de tout s'est éteint d'un seul coup, où je suis au taf, je suis avec mes collègues, et je les vois toutes en face de moi me poser plein de questions, me dire « il y a ça qu'il faut faire, il y a ça qui va pas, il y a ça, machin ». Et j'ai senti d'un seul coup tout le poids sur mes épaules, donc qui était déjà présent depuis... depuis tard l'époque, t'as vu. Enfin, c'était déjà là depuis un moment, mais d'un seul coup, je l'ai senti. Genre, il est apparu, genre, bam, d'un coup, tiens, regarde tout ce que t'as depuis des mois. Et justement, ce truc de tout s'est éteint. Et l'effet sonore, là, je sais plus comment ça s'appelle, où ça fait la...
L'acouphène, un peu.
Voilà, un espèce d'acouphène. Et là, tout s'est éteint. Et à ce moment-là, donc, je suis partie dehors et j'ai cry in the club. J'ai pleuré comme une petite merde sur les marches, chose qui ne m'est jamais arrivée. Alors, j'ai un peu de fierté. Donc, pleurer au travail, c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté, que je ne souhaite pas réexpérimenter dur, comme moi, dans ma vie. Et là, en fait, je me suis mangé une énorme claque dans la gueule de « Non, mais meuf, ça fait des mois que ça va pas, ça fait des semaines que t'essayes de dire « Allez, meuf, t'es forte, t'es solide, et non, et tu peux encore encaisser, etc. » Et en fait, non, je pouvais plus. Et donc, du coup, moi, ça a été un peu moins sur la durée, mais juste d'un seul coup, ouais, je me suis tout repris en plein visage, quoi. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Donc là, ça a été directement arrêt maladie. Et je pense que j'ai un espèce de blackout de tout ce moment-là, ce qui nous amène à la partie 2 de comment est-ce qu'on l'a intitulé ? Le grand choc. Le roller coaster. Ouais, le grand choc du burn-out. Là, je vais te redonner la parole, Pauline, pour okay. Voilà, un peu varier les plaisirs, finalement. Toi, à quel moment tu te dis « Ok, stop ».
Moi, je m'en rappelle, c'était... Donc, j'étais dans la deuxième entreprise où je travaillais, où pareil, j'avais commencé, comme tu l'as très bien dit, en blackout total. J'ai même plus d'idée du temps que j'ai fait là-bas, de ce que je faisais. J'étais en post-traumatique, je pense que c'est ça, en fait, le terme qui qualifie tout notre état. Et en fait, il y a eu un jour où c'était trop et j'ai loupé mon réveil un lundi matin. Je devais aller en cours et j'ai vu mon réveil et j'ai vu que j'allais louper le réveil et je me suis dit, je fais quoi? J'appelle l'école et en fait, mon cerveau m'a dit, t'y vas plus, t'y retournes plus, t'arrêtes tout, t'arrêtes. T'es incapable de te lever de ton lit, tu veux plus aller nulle part. Et là, j'étais bloquée. Genre, mon corps, en fait, je pense que c'est là quand tu disais aussi quand t'as pleuré au travail, c'est qu'à un moment, tu t'écoutes pas. Et ton corps, là, il t'envoie le dernier message, c'est-à-dire ouais. Il te bloque, il te fait pleurer, il te donne de l'eczéma, enfin, il peut tout faire. Moi, je me rappelle, j'avais des grosses contractions au niveau de la cage thoracique. Quand je marchais, je devais m'arrêter, j'avais l'impression que j'arrêtais de respirer, j'avais des pointes et tout. Et le corps, il envoie des messages comme ça au fur et à mesure. Et là, le fait qu'il me laisse juste incapable de me lever, et quand je me suis dit, est-ce que je me lève, est-ce que j'y vais ? Mon cerveau, j'ai commencé à pleurer, mais je savais même pas pourquoi je venais de me réveiller. Je me mets à pleurer en mode je peux pas me lever de mon lit, je peux plus sortir, et je t'ai appelée. Et on a passé une super journée toutes les deux.
Ouais, c'était chouette.
Et jusqu'à ce que je prenne la décision d'appeler, enfin de partir, on est parties toutes les deux un peu prendre l'air au bord de la mer pendant 2 jours pour faire un petit point. Mais j'ai appelé ma mère et je lui ai dit je vais tout arrêter, je suis pas du tout heureuse dans ce que je fais, j'ai besoin de me retrouver, de savoir ce que je veux faire.
De te reposer aussi.
Voilà, de me reposer. Et ça, ce sera un autre sujet, parce que le repos dans le burn-out, c'est pas du tout vu comme quelque chose comme on pourrait l'imaginer. Mais ouais, ce réveil a été la fin de... enfin, ce non-réveil a été la fin de tout ça. Et c'est le gros choc qui s'est passé. Et après, ça a été, tête en bas, dégringolade.
Ouais.
Et toi?
Comme je l'ai dit juste avant, il y a eu donc cet épisode de larmes, machin. Je pense 2 jours après, j'avais pris rendez-vous chez le médecin. Et il y a eu cette espèce de réflexe que je ne pensais pas avoir, étant indépendante depuis un moment maintenant. Enfin, j'ai quitté ma famille depuis un moment, à prendre mon appartement, etc. Mais il y a eu ce réflexe directement, je suis retournée à l'état d'enfant, et le seul truc dont j'avais besoin à ce moment-là, une fois que l'arrêt maladie a été annoncé, c'était d'être chez mes parents, et juste, je sais pas, qu'on me prenne dans les bras, enfin que mes parents me prennent dans les bras. Et c'est trop trop bizarre, parce que déjà que t'as ta fierté qui en prend un coup, et en plus de ça, tu retournes à cet état enfant. Ah, j'étais mal, hein.
Ah bah t'as... Ah, en fait, tu perds tout
désagréable.
Tu perds tout tes... Toutes tes... 1, 2, 3. Tu perds toutes tes facultés, en fait.
Ouais.
Limite à te nourrir, à savoir ce qui est bon pour toi. T'es juste un gros légume, là.
Bah, c'est ça.
Et ouais, toi, du coup, t'es retourné. En plus, t'as eu un petit... ton corps aussi, il a lâché un moment. Il est tombé.
Vraiment, au sens littéral. Non, au sens propre ou au sens littéral?
C'est la même chose, je crois. Ah ouais. C'est figuré ou propre.
Ah oui, merde. Bref, je suis tombée. Vraiment, je me suis affalée de tout mon long. On passe une après-midi avec Pauline, enfin une fin de journée, bref, je sais plus, chez une pote. Et je loupe une marche. Et mon corps, elle a dit, c'est ciao, Lisa. J'ai été plâtrée. À savoir que j'ai jamais eu de plâtre dans ma vie. J'ai pas expérimenté l'époque où c'était fun, où t'avais des béquilles et tout, et tes potes, ils étaient là, ah, prête-moi tes béquilles, machin.
Je te dédicace ton plâtre.
Moi, c'était juste chiant. Juste, bah là, je suis vraiment retournée chez mes parents pendant 2 semaines parce que je pouvais pas bouger. Fallait que je fasse des piqûres et tout. Bref, très, très relou. Et donc ça, je l'ai très mal vécu aussi, mais bon, c'est encore autre chose, le retour chez les parents, quand t'as pris ton indépendance, c'est un tout autre sujet, mais vraiment, ouais, mon corps a complètement lâché, et je pense que j'ai été en arrêt maladie pendant 3 mois, et vraiment, les 2 premiers mois de mon arrêt maladie, je suis incapable de situer ce que j'ai fait. Ce qui se passait dans ma tête, vraiment, c'est un blackout. J'arrivais pas trop à parler aux gens, j'arrivais pas trop à sortir, ou alors si je sortais, j'avais pas l'impression d'être complètement moi-même, et ça me fait encore ça par moment. Heureusement qu'on était ensemble avec Pauline, on a une troisième copine aussi qui a vécu ça, où on a pu vivre ça un peu toutes les trois quand même. Je me dis heureusement, parce que vivre un burn-out, surtout à notre âge, toute seule, parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte, c'est le fait que bah, on a 23 et 24 ans, qu'on commence à mettre vraiment les pieds dans le grand bain qu'est le travail, même si on a eu plein d'autres expériences, de stages, d'alternance, etc. Mais c'est relativement tôt quand même dans notre vie pour vivre quelque chose comme ça. Et les conséquences derrière, elles sont énormes. Et elles peuvent être graves si bah, nous deux on s'était pas soutenus, avec notre autre copine on s'était pas aussi soutenus toutes les trois, qu'on mettait pas de mots là-dessus, qu'on n'était pas accompagnés aussi par une psychologue. Je pense que c'est... Enfin ouais, les conséquences derrière sont très graves. Et justement, là, ce qui peut être intéressant d'aborder, c'est un peu les montagnes russes qu'est le burn-out, une fois que t'as fait l'état des lieux de « ok ». Là, je sais ce qui se passe. Mon médecin m'a diagnostiqué, ma psychologue m'a diagnostiqué comme étant en burn-out. Maintenant, qu'est-ce que je fais, Pauline?
J'étais en train de réfléchir à de revisualiser. Je me dis, c'est vrai que moi aussi, il y a une partie où je revois un blackout. Mm. Donc, je pense que c'est un peu similaire hein, aux phases du deuil, mais dans le sens très... Dans le sens où t'as plein d'émotions à plein de moments différents qui sont pas forcément linéaires. Moi, je sais que les différentes étapes, ça a été donc au début un peu une espèce de déni en mode « Oh bah trop bien, je vais être tranquille, je vais pouvoir faire ça, 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 ça. Mmh. » Je suis plein d'idées, plein de choses. Donc ça dure une semaine à peu près.
Ouais.
Après, t'as le contre-coup, t'es en mode « Oh mon Dieu, mais c'est la panique à bord, crise d'angoisse, il faut que je me débrouille. » Et là où toi, tu as eu besoin de retourner chez tes parents, moi, je sais que je me suis forcée à pas ressentir ça. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je voulais pas montrer aux gens autour de moi que je pouvais faiblir et que je pouvais être mal. Donc, je me suis forcée à être productive. Je voulais, quand j'allais voir mes parents, je voulais leur dire « Alors, c'est ça mes objectifs, c'est ça que je vais faire de ma vie, c'est ça mes projets. Vous pouvez être fiers de moi. Je vous jure que je fais pas rien, que je suis pas en vacances. » Parce qu'il y a eu ce regard des gens qui était trop difficile à gérer. Genre le « Bah, tu fais rien. » Enfin, en mode, c'est des vacances, frère. J'aimerais bien être en vacances. Tu savais ce qui se passe dans mon cerveau.
Mais même exprimer ce que tu ressens. C'est auprès de tes proches, enfin en dehors de l'aspect familial, voilà, c'est quelque chose de très particulier, mais exprimé auprès de tes potes, enfin je pense que t'as ressenti ça aussi, déjà de 1 t'as pas envie, et de 2 tu sais même pas mettre de mots dessus.
Et de 2 tu coupes, enfin moi je sais que j'ai coupé avec mes potes, j'ai mis beaucoup de distance, parce que j'étais en mode j'ai pas envie qu'on me demande, j'ai pas envie qu'on me parle, et déjà parler avec des gens, à part avec les personnes qui vivaient exactement la même chose que moi à ce moment précis, je pouvais pas parler, j'allais pas m'intéresser aux gens parce que j'avais juste une envie, c'était qu'on me dise ça va aller meuf. Et il y a aussi ce truc où bah moi j'ai beaucoup de problèmes avec ma fierté, mon ego, la preuve vous avez commencé à entendre toutes mes histoires, mais j'arrivais pas à aller voir des amis ou aller voir ma famille et dire help, genre là je me sens pas bien et j'aimerais qu'on me prenne en considération et j'aimerais qu'on me rassure et j'ai besoin de parler, pas du tout. Moi j'étais en mode ok, je vais pas bien, bah je vais essayer de vendre mes fringues pour me faire plein de thunes, de trouver quelle école je vais faire, et en fait je pense que bah ça m'a coûté beaucoup par la suite, parce que presque un mois après j'ai eu des grosses phases d'épisodes très très noirs, parce que du coup bah le fait de m'être pas du tout laissé le temps juste après ce burn-out de me reposer, de retourner par exemple chez mes parents, de leur verbaliser mes peurs de pas avoir d'argent, juste, je l'ai pas fait parce que je voulais pas que ça soit réel.
Ouais.
Et du coup, bah, c'est revenu en effet boule de neige un mois et quelques après, par vague. En mode, une semaine, j'allais être juste tout le temps mal et pleurer en continu et plus avoir d'énergie dans mon corps. Et j'avais envie, en fait, que les gens se rendre compte que j'allais mal sans avoir à le montrer, et ça c'est un tout autre sujet, c'est d'accepter sa vulnérabilité. Mais je sais que ça a été super dur pour tout ça, et après bah moi j'ai fait donc toute cette partie de déni où tout ce qui me rappelait le travail ou quoi, je voulais pas en parler, je voulais pas enfin, ça me mettait soit dans des émotions de colère d'un coup contre les gens, soit j'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie de me reconcentrer dessus, je voulais le classer et plus jamais le réouvrir. Et en fait maintenant je suis dans la période où ça fait des vagues, en fait. Il y a des semaines où je vais me dire « Oh la vache, il y a eu tout ça, c'est dur, et mon corps est encore fatigué, et mon corps sait que ça a été dur. » Et l'autre côté, toujours un peu autodestructrice de « Mais meuf, c'est bon, c'est pas si grave, tu pourrais avancer encore plus, faire encore plus de projets et faire mieux. » Et après ça, je sais que c'est moi personnellement, mon rapport à moi-même, mais c'est vrai que c'est très très compliqué de gérer toutes ces émotions dans tous les sens. Et voilà, moi, j'ai pas de solution concrète encore, parce que même si, avec le recul, je me dis que c'est un mal pour un bien, parce que là où j'en suis aujourd'hui, professionnellement, amicalement, tout ça, c'est une belle chose et ça a été une bonne chose que ça se passe. Mais d'un autre côté, le flou du milieu et les vagues émotionnelles, elles font que renforcer ton sentiment de solitude, en fait.
Et puis en plus, je me permets d'ajouter quelque chose. Je sais pas si tu ressens aussi ce truc-là, mais notamment par rapport aux potes. À la période où ça arrivait, en tout cas personnellement, j'avais un entourage qui était quand même vachement présent, mais pour n'importe quel trauma qui t'arrive et qui touche que toi, au bout d'un moment, les gens ils sont saoulés, tu vois, d'en parler, ce qui est legit, attention, ce n'est pas un reproche pour nos amis qui sont autour de nous, c'est normal, comme je sais pas s'il se passe un truc en particulier pour une personne qui t'entoure, le premier mois t'es à fond machin etc, et puis au bout d'un moment ta vie à toi reprend le dessus, ce qui est normal. Mais du coup ce qui est compliqué, c'est que toi, t'as quand même envie d'en parler, après, sachant qu'on est deux scorpions, il faut vraiment aller venir chercher les informations, etc. c'est compliqué parce que ça va pas venir de nous, je te mets dans ma boucle. Pas venir de nous, je sais pas, on va boire un caf avec des potes et à un moment donné, on va leur dire « Non mais là, ça va giga mal, je suis en train de repenser à ce qui s'est passé ces derniers mois, etc. » Ça va pas venir de nous. Sauf que ça va pas venir des autres non plus, puisque eux, cet épisode-là, il est passé. Et ce qui est normal, mais du coup, ce qui fait que... Enfin, nous, c'est ce qui s'est passé entre Pauline et moi. C'est que comme on passe par les mêmes phases, puisque notre burn-out, il arrivait au même moment pour les mêmes raisons, et on passe quand même similairement par les mêmes phases toutes les deux, même si c'est des fois une semaine d'écart, où il y en a une qui a envie de se tirer une balle la semaine d'avant et l'autre, c'est la semaine d'après. On passe quand même par les mêmes phases et on peut en parler librement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se voit tous les jours. littéralement, parce qu'on se comprend, etc. Et du coup, c'est compliqué la relation que t'as avec les autres, parce que comment tu peux expliquer par un moment là aujourd'hui ça va trop mal par rapport à un truc qui s'est passé il y a 4 mois, c'est compliqué.
C'est comme tout en fait, c'est avec cette histoire de santé mentale, c'est que tant que ça se voit pas physiquement, c'est pas important.
Ouais.
Genre moi je sais qu'il y a eu un moment, je sais pas toi si t'as ressenti ça, mais où je m'en rappelle, je buvais un café avec ma sœur et j'étais très très mal, et c'était au début où mes parents étaient en mode, ça faisait un mois ou deux que c'était terminé. Et mes parents commençaient à être « Mais tu vas faire quoi? Tu travailles pas? Tu veux pas postuler quelque part ?» Et aller expliquer à quelqu'un en burn-out ce que ça fait, la peur du travail. Et mes parents, coucou à vous si vous écoutez tout ce podcast, mais je me suis sentie pas du tout écoutée et pas du tout avoir la confiance en face de moi. Donc j'étais arrivée au stade de dire à ma sœur « Mais il faut quoi? Il faut que c'est horrible ce que je vais dire, mais il faut que je me jette sous un train et que j'ai un truc physique, que je sois dans un lit d'hôpital pour qu'on se rende compte que je vais pas bien. Parce que là, tant que je mange, que je m'habille et que je respire, ça va, c'est pas si grave, alors qu'au fond de moi, j'ai envie de canner. » Et il faut ça pour que les gens prennent des fois en conscience la santé mentale, c'est que des fois...
Mais c'est pas assez reconnu et légitimé, mais comme les burn-out en règle générale, d'ailleurs qui sont ces médecins qui arrêtent les gens à tout va, pardon, c'est une petite private joke, c'est pas assez reconnu, alors que pourtant ça fait longtemps que les burn-out ça existe.
C'est tout comme la dépression.
C'est pareil.
T'es en dépression et tu vas réussir à t'habiller le matin, à te maquiller, tu vas aller voir des gens, on va dire « Oh, ça va !» Mais vous savez pas, il y a des images où, pour être mal, il faut être dans un lit allongé en PLS, et non, il n'y a pas que ça, en fait. T'arrives, c'est des yo-yo, il n'y a pas de... Je trouve que le cliché même de la santé mentale, il est à refaire entièrement, dans le sens où il y a des gens, ça se trouve, vous les voyez tous les jours, grand sourire, super heureux, au fond d'eux, ils sont en total burn-out, anxiété, tout ce que tu veux, ça se voit pas. Et la santé mentale, les gens, c'est tellement un conflit de fierté envers soi-même, déjà, d'accepter que tu vas mal, que là, il y a très peu de personnes qui acceptent de le montrer physiquement.
Ouais.
À part quand ça va rentrer dans les TCA, mais bon, on en parlera une autre fois. Mais au contraire, tu veux toujours cacher que tu vas mal physiquement. Mmh. Donc ça serait l'inverse de dire bah, je vais mal, regardez, je me maquille plus, je m'habille plus, je fais plus rien pour attirer l'attention. Ce serait limite l'inverse, tu vois.
Ouais.
Donc bon.
Complètement. Mais le terme yo-yo, c'est exactement ça. Enfin, là, en tout cas, c'est comment on se sent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'au début du podcast, on disait qu'on voulait faire deux épisodes peut-être sur le burn-out avec un long temps d'intervalle. C'est que là, aujourd'hui, pour moi comme pour Pauline, hein, tu dis oui ou non ?
Oui.
y a des jours, des semaines où ça va trop bien, où on est hyper créatif, hein, on est en train de bosser bah, déjà sur le podcast qui nous fait un bien fou, et qu'arriver au bon moment, enfin genre vraiment, vous êtes un peu notre thérapie, hein,
oui,
on va pas vous mentir. Ça fait du bien de ouf d'avoir créé ce projet-là. On a encore d'autres choses à côté, d'autres projets très cool. Donc il y a des semaines où ça va trop bien et où la vie est belle et les oiseaux chantent. Et puis la semaine d'après, eh ben non, tu te reprends encore une claque dans la gueule et t'es là, non, meuf, hein, c'est ton cerveau là qui parle quand je dis non, mais la meuf. Non, mais la meuf, repose-toi quand même, vas-y doucement, parce que t'as pas non plus guéri de tout ce qui s'est passé, donc vas-y mollo. Et là, t'as besoin de t'exclure pendant 3-4 jours, de te barricader chez toi ou chez tes parents, ou peu importe, et juste de couper ton téléphone, de te mettre en mode lune. Ou en mode avion.
Coucou, Axel.
Choisis ta thème.
Je me mets juste en mode lune.
Et bref, hein, ça varie énormément. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut pas vous dire si oui ou non ça va bien, en vrai. Je serais incapable de répondre à cette question si on me pose...
Ça dépend des heures.
Ouais, en vrai, ça dépend vraiment des heures. Dans une journée, ça dépend de ouf. Genre, tu vas te réveiller le matin, tu vas avoir la pêche, tu vas être là, allez, let's go, projet, truc, créativité, etc. Et 2 heures après, je vais peut-être me remettre dans mon lit, juste vite fait, et arrêter de te parler pendant 3 heures.
Et après, tu te rends bien compte en mode, ah ouais, mais là... Bah, j'ai pas de thunes, j'ai vécu tout ça, je dois repuiser de la motivation et,
ouais.
Et ton rapport à toi, il est totalement biaisé, tu vois, genre c'est un peu quand on voulait aborder bah, les conséquences de tout ça, si on lance sur cette dernière thématique,
ouais.
C'est que, à mes yeux, le plus grand dilemme de tout ce qui touche, mais de règle générale à la santé mentale, mais nous, là, avec le burn-out, c'est la confiance en soi, personnellement, ouais. Professionnellement, relationnellement. Et toi, par exemple, comment tu l'as ressenti, donc cette confiance en toi, comment, c'est quoi ton rapport maintenant avec elle dans ta vie ?
Bah alors, pendant tout l'épisode où ça allait mal, aucune confiance en moi, rien du tout. Et à un moment donné, il y a eu quand même un déclic. Alors, je sais pas quel moment précis est-ce qu'il a été provoqué, mais là, je sens que je suis en train de reprendre confiance en moi. Par contre, notre burn-out dû au travail fait que je ne veux pas, en tout cas aujourd'hui, après c'est voué à évoluer, hein, mais en tout cas aujourd'hui, je ne veux plus retourner dans une entreprise, je ne veux plus avoir quelqu'un au-dessus de moi, je veux que s'il se passe quelque chose dans ma vie, ce soit dû uniquement à mes actions, et j'ai besoin d'être fière de moi et de me serrer la main, de me faire une tape sur l'épaule et dire « meuf, t'es chaud, tu vois ». Et là, en ce moment, je sens que je suis un peu en train de reprendre confiance en moi, alors c'est un long chemin. Encore une fois, ça passe par plein de phases où j'ai avoir des gens dans mon entourage qui vont me dire « Mais meuf, t'es chaud !» Et moi, je vais être là « Bah, en vrai, pas tellement, tu vois, pas de ouf !»« Mais si, regarde, t'es en train de faire ça, ouais, je sais pas !» Enfin bref, la confiance que j'ai en moi, elle varie beaucoup, mais je sens qu'elle elle reprend un peu du galon, tu vois. Je sais plus si c'est ça l'expression.
Si, c'est ça,
elle reprend
ça
du galon.
Ça passe,
ouais.
C'est accepté.
Oui. Et toi, t'es comment sur ta confiance ?
Moi, en fait, ça a fait... donc, elle était à moins 27 à la fin, donc, à la période de mon burn-out. Donc, que ce soit physiquement, mentalement, tout ce que tu veux, c'était catastrophique. Et en fait, au fur et à mesure, ça m'a tellement forcée à me rendre compte de tout ce que j'étais capable de faire, même en étant la tête sous l'eau, que maintenant, en sortant un petit peu de tout ça, je me dis « putain,
ouais.
Bah, je suis une bête de meuf ».
Ouais.
Et ça peut paraître parfois totalement narcissique de le penser, mais je pense que tout le monde devrait le penser. Et je me dis « mais en fait, là, ce qui s'est passé, comment ça a été dur et on n'a pu compter que sur nous-mêmes pour avancer ». Je me dis, mais en fait, la confiance en moi, elle est revenue, mais d'une autre manière. Mm. C'est plus la confiance en moi de « oh, je suis dans la rue, je marche, je me sens trop fraîche et tout », c'est en mode « je sais que je suis une bonne personne
». Ouais.
C'est plus c'est même plus de la confiance, c'est de l'estime.
Ouais.
En fait, j'ai retrouvé de l'estime de moi en me disant t'es capable de faire des choses, t'es capable de faire des projets, t'es pas débile. Ouais. On a voulu te faire croire que tu l'étais ou que t'étais pas assez bien, pas assez capable. Mais en fait, tu l'es et t'es créative et t'es une bonne personne. Tout ce qu'on a voulu me faire croire le contraire. et du coup, cette confiance, elle est revenue d'une manière très différente,
ouais.
mais de manière plus mature, plus calme, plus apaisée,
ouais, de ouf.
Et plus saine, je pense.
Ouais. Et juste essayer de recréer, nous, notre propre monde du travail. Et pas celui qu'on t'impose depuis que t'es jeune, celui qu'on te met dans la tête de patron, de salarial, de trucs, de machin, tu vois. Ça, nous, en tout cas, aujourd'hui, ça nous intéresse plus. Alors après, on sait pas, tu vois, où on sera dans 10 ans, 20 ans, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'état des lieux, c'est bon. Maintenant, on roule notre propre petite bosse, là. Et nous sommes fortes, nous sommes fières.
Ouais. Et féministes, radicales et en colère. Et puis, ouais, comme tu dis, je pense que de toute façon... quand il nous arrive des choses comme ça sur le chemin de la vie, que ce soit des burn-out, des expériences traumatisantes ou de merde ou peu importe quoi, le but de tout ça, c'est toujours de se remettre en question, parfois de tomber très très bas. Mais ouais. Je pense et je crois intimement et profondément au fait que c'est pas pour rien qu'on vit des expériences compliquées. C'est soit pour faire du ménage dans sa vie, pour reprendre confiance en soi, voir de quoi on est capable. Par exemple, t'as pas assez confiance en toi, bah tu vas voir, je vais te mettre les pires expériences de ta vie,
ouais.
Et tu vas voir comment t'es capable de remonter tout ça. Tu te sens pas bien dans ton travail, ça te saoule, bah vas-y, on va faire en sorte que ça pète dans tous les sens et tu vas pouvoir créer quelque chose qui te plaît. Donc certes, c'est des gros risques. Certes, on sort de notre zone de confort, tous les jours on panique, tous les jours avec Lisa on fait des meet-ups de crise en mode meuf, est-ce qu'on fait les bons choix, est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on
mais
fait.
Mais c'est hyper excitant à côté.
Mais c'est super et puis ça permet de créer ce qu'on veut parce qu'en fait dans la vie on n'est pas tous destinés à un seul et même modèle qui est le salariat, qui est les études, tout le monde a sa vie différemment. Tout le monde peut faire les choix qu'il veut, tout le monde peut se réorienter à n'importe quel moment, créer une entreprise. Rien n'est risqué en fait. Et là, c'est vraiment la prise de conscience que moi j'ai là, c'est qu'en fait, tu peux tout faire. Tu veux demain créer ton entreprise, lancer un podcast, arrêter tes études, en reprendre d'autres. Tu peux tout faire. Ouais. Il suffit d'avoir les bonnes personnes autour de toi. Parce que là-dessus, big up à tous mes potes et à cette grosse coloc qui est à côté de moi.
Moi.
Pour toutes les périodes compliquées comme ça. Je pense que ça permet quand même de prendre conscience des gens qu'on a autour. Et,
de ouf, meuf.
Reposez-vous sur les gens sains autour de vous. Et parfois, c'est pas ce qu'on pense, mais on a des belles surprises.
Et en vrai, ça va aller. Si vous vivez cette période-là, non, mais tu sais, c'est une phrase qui est trop con.
Mais ça va aller.
Moi, j'avais trop envie qu'on me dise ça à ce moment-là.
Qu'on fasse le petit.
Ouais.
Ça va aller, meuf.
J'ai une pote qui m'a fait ça. Deux secondes de mini aparté, après, c'est la fin. J'avais une pote qui m'avait fait ça. Genre, je sais plus, ça devait faire un ou deux mois que, genre, vraiment, j'étais au fond. Et je tournais un peu en boucle sur ce qui s'était passé au taf. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, mais meuf, en vrai, t'inquiète, ça va aller.
Oh la vache, tu pleures, non ?
Bah, des larmes, automatiquement. J'ai pas pleuré, parce que vas-y, t'as vu un peu fière. Mais la gorge, elle était serrée, et ça fait du bien de ouf. Donc si vous êtes, vous, justement, dans cette période-là de, oh là là, je suis en train de péter un plomb, ça va aller, vraiment. Là, vous êtes peut-être au plus bas actuellement, mais à un moment donné... ça va remonter.
Et on a toujours toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de nous. Faut jamais penser que les ressources, elles sont à l'extérieur.
Ouais.
Ça, c'est que en vous. La confiance, les choix de vie, de carrière, même si c'est dur, toutes les réponses, elles sont inside the box.
Toujours le franglais. Et bah, fin du podcast, on n'a pas fait énormément de blagues, c'est un peu gloussé par moment, mais en même temps sujet compliqué.
On va essayer de reprendre des sujets peut-être un petit peu plus
pour le prochain. Viens, enfin un sujet un peu fun,
un peu léger, un peu bad bitch, un peu voilà tout ça quoi.
Exactement. On vous fait des énormes bisous, Pauline, je te fais un gros smack.
Mais moi aussi. Et prenez soin de votre santé mentale. Oui. Aimez-vous.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.